République en débat.
Les 29 et 30 septembre, un séjour était organisé par le foyer rural de Ponteil-à-Nils dans le cadre de son projet Solutions Sport et Santé. Une vingtaine de jeunes DPO, mais aussi du Gard, se sont réunis grâce aux fédérations départementales des foyers ruraux 66 et 30. Entre les activités et échanges prévus, nous avons pu réaliser une nouvelle émission de La République en débat avec pour sujet la fraternité. On continue donc avec la deuxième partie, suite et fin de ce débat citoyen.
Ok, alors tout à l'heure on parlait plus de la fraternité dans le sens où c'était aller aider quelqu'un parce qu'il s'était passé quelque chose. En tout cas c'est un petit peu ce qui est ressorti. Par rapport à ce que tu viens de me dire, les réseaux sociaux, tu les placerais comment par rapport à ça? Parce que tu me dis que c'est pour faire un premier pas, mais quand tu vas aider quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, le premier pas tu le fais pourtant bien en vrai.
Après, c'est pas pareil. Ça, si la personne a besoin d'aide, à ce moment-là, sur le coup, tu vas pas dire « Oh, elle m'intimide, je vais pas aller l'aider. » Tu vas l'aider. Enfin, je pense que c'est la première chose. Que c'est la première chose à laquelle on pense. Mais après, c'est aussi juste... Si c'est juste une personne comme ça, t'auras du mal à aller lui parler en face. Mais si la personne a besoin d'aide, sur le coup, tu vas pas la laisser en face de toi galérer, avoir... la regarder comme ça et voir qu'elle a besoin d'aide et pas réagir. Tu vas réagir systématiquement. Par réflexe, je sais pas, mais tu vas réagir, quoi.
T'as plus... tu vois la situation de la personne, du coup, tu sens plus le besoin d'aller aider une personne. Tandis que sur les réseaux sociaux, par exemple, comme on disait, les financements participatifs, si une personne, elle peut mettre ça, mais c'est totalement faux. Ça peut être faux que... Genre, elle te demande de l'argent, mais c'est pas du tout à des fins... pour l'aider soi-même, tout ça. Tandis que tu vois la galère de la personne quand c'est en vrai. Tu vois qu'elle a besoin d'aide. Du coup, tu te dis, c'est vrai, et j'y vais.
Après, je sais pas trop, parce qu'on parle de la fraternité que dans des moments négatifs. Par exemple, une personne a besoin d'aide, donc on va l'aider. Mais je pense que la fraternité, ça devrait être quelque chose de naturel, enfin, d'être... On vit ensemble et on est ensemble. Et donc, on s'entend bien les uns les autres. Et enfin, faut pas que ce soit lié toujours au fait d'avoir besoin d'aide. Parce que la fraternité, c'est... À la base, pour moi, c'est vivre tous ensemble. Et pas aller voir une personne parce qu'elle a besoin d'aide, mais aller voir une personne parce que t'as envie de vivre avec elle et de partager quelque chose avec elle. Et voilà, c'est juste vivre. Et c'est pour ça que aussi les réseaux sociaux, c'est... une bonne façon de partager les choses et de se dire oh, on va créer un événement et on va aller ensemble faire quelque chose ensemble en tant qu'humains qui ont envie de passer un moment ensemble quoi. Et qu'il faut pas que ce soit juste oh tiens cette personne a besoin d'aide, je vais aller aider, mais oh tiens j'aimerais bien passer du temps avec cette personne donc je vais le faire.
Sur internet on peut aider les personnes psychologiquement si ils ont besoin d'aide.
C'est-à-dire, tu penses à quoi?
Bah, si, je sais pas, elle est mal.
Pardon?
Si elle est mal dans sa peau.
En allant discuter avec une personne?
Ouais.
D'accord, oui, c'est vrai. Ça vous est déjà arrivé de vous servir plus des réseaux sociaux que de la vraie vie pour aider quelqu'un, pour rendre un service, pour réunir des gens?
Et aussi, si on peut pas aller la voir, on peut parler en message.
Oui, c'est vrai.
Je trouve que les réseaux sociaux, ça nous aide aussi pour la fraternité parce que de nos jours, quand on veut créer un événement entre amis, on fait un groupe Snap ou un groupe Insta. Et du coup, on se dit tous, c'est qui veut aller au ciné samedi? Et on met tout le monde qui est d'accord. Et ça nous aide alors qu'avant, il fallait que tout le monde se voie et que les parents soient d'accord. Alors que maintenant, en deux minutes, on demande à notre mère, en même temps, on répond sur Insta et c'est fini. Et du coup, ça aide à rassembler des gens.
Personnellement, j'ai joué les psychologues, entre guillemets, pour le mec d'une amie qui, en fait, s'était rencontré lors d'une colo. Ils y allaient chaque année, ils se voyaient. Et du coup, il avait perdu quelqu'un de sa famille. Et du coup, j'ai discuté avec lui, tout ça, par réseau social.
Très bien.
Est-ce que vous pensez... Pardon.
Après aussi, justement, comme il a dit, les réseaux sociaux aussi, c'est si tu veux aider une personne, ça permet de briser une frontière du sens que si t'habites, regarde, nous on est dans les PO, on vient d'à côté de Perpi. Si tu veux aider une personne, t'as un ami qui habite à Paris, tu vas pas aller le voir comme ça pour lui dire ouais t'as besoin d'aide. Enfin, s'il te demande de l'aide, ben tu peux l'aider, mais en discutant avec lui sur internet, alors que je sais pas, il a besoin d'aide.
Après, sur les réseaux sociaux, on a besoin d'aider parce que les gens, ils sont, bah, par exemple, dans les commentaires insultés. Mais si on n'aurait pas les réseaux sociaux, on aurait besoin, déjà moins besoin de...
Et puis aussi, une personne qui a besoin d'aide mentalement, c'est plus facile pour elle de parler de ses problèmes, je pense, à travers un écran ou un téléphone qu'en vrai. Enfin... Après, moi, personnellement, je sais que quand je vais pas très bien, j'ai plus de facilité à juste écrire ce qui va pas et l'envoyer à quelqu'un et puis recevoir des conseils ou de l'aide plutôt que d'en parler en vrai et de me mettre dans de mauvais états et tout ça.
Depuis tout à l'heure, on parle de famille, on parle d'amis, on parle d'inconnus croisés dans la rue. Est-ce que vous pensez que vous, votre fraternité que vous exprimez vers les gens, c'est la même que vous exprimez envers tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a une différence justement entre la famille d'un côté, les amis de l'autre, les inconnus, encore quelque chose d'à part ?
Y a un degré de différence en fonction des liens. Parce que si ton petit frère il est dans une difficulté et qu'une personne inconnue il est en difficulté aussi, et que les deux ils viennent te voir en même temps, ben, tu choisirais plus d'aider ton petit frère. Mais moi, personnellement, il y a déjà des gens que je connaissais pas qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils avaient besoin d'aide et parce qu'ils voulaient parler justement à une personne inconnue. Et c'est pas pour autant que je les ai rejetés, que je les ai dit « je te connais pas, j'ai pas envie de t'aider ». Je les ai quand même aidés, je les ai quand même écoutés et j'ai essayé de faire au mieux pour qu'ils se sentent mieux. Après, je dis pas que j'aurais réagi de la même manière avec avec Valentine si elle a besoin d'aide. Mais
Valentine, qui est ta sœur pour nos auditeurs, si jamais.
Oui. Mais après, je pense que c'est un peu différent, mais qu'il y a quand même l'idée derrière la tête du fait que t'as envie d'aider la personne. Donc t'as envie de l'aider et donc ça se ressent. Et tu l'aides comme tu peux. Après, si tu la connais pas du tout et que tu sais pas quoi lui dire, tu fais au mieux, mais voilà quoi. Après, ça change pas. T'as quand même envie d'aider la personne d'une certaine manière quoi.
Moi, je trouve que les gens qui envoient des méchants commentaires, en fait, ils ont moins peur que s'ils diraient en face. Par exemple, s'ils disent ah, t'es grosse, t'es moche, s'ils seraient en face, ils diraient pas ça. Enfin, ils auront moins...
C'est plus facile d'insulter sur Internet ?
Ouais.
Oui. Vous êtes d'accord ?
Bah, ça dépend.
Ça dépend d'eux.
Bah, y en a, ils se fichent. Mm-hmm. Enfin, si tu dis à l'école, tu sais que si l'autre il va le dire, tu vas être puni. Qu'en message, tu peux lui dire et il s'en fiche, ceux d'Internet.
D'accord.
Et aussi, entre un frère et un inconnu, ça dépend du degré d'aide.
Ouais.
Surtout qu'on peut insulter de différentes manières. Je veux dire, avec des potes, on peut s'insulter, mais genre, les potes, ils vont savoir que c'est gentil. Tu fais ça avec une autre personne, les personnes, elles vont vraiment s'énerver ou vraiment vouloir t'insulter, mais physiquement.
Je vois.
Je suis totalement d'accord avec Noé.
Très bien.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on a un problème entre un inconnu et un frère, une sœur ou quelqu'un de notre famille, eh ben, on est beaucoup plus impliqué émotionnellement et sentimentalement vers la personne qui est notre frère, notre sœur ou notre mère que la personne inconnue. Tu sais pas comment elle va réagir, la personne. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vraiment dans sa vie, si elle dit vraiment toutes les bonnes informations. Alors que ton frère, ta mère, ta soeur, tu connais à peu près tout. Donc tu peux plus facilement l'aider quand elle est dans le besoin de ton frère, ta famille, qu'un inconnu, je trouve.
Et aussi, on sait pas si il est bourré ou pas. Enfin, comment il peut réagir?
Oui, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière les inconnus.
Ouais.
Ouais. Donc on n'est pas toute leur vie, c'est sûr.
Bah après, je pense que ça dépend des liens qu'on a avec les personnes, parce que on peut très bien être très très éloigné d'une personne de sa famille et très très proche d'une amie par exemple. Et donc là, on serait plus dirigé vers l'ami donc pour l'aider plutôt que la personne de notre famille à qui on parle jamais ou on n'a plus de nouvelles ou quelqu'un. Donc je pense que ça n'a pas trop de rapport avec la famille ou pas.
Ok. Bah pour nous donner un peu plus d'éléments de réponse, on a la dernière partie du micro-trottoir, la quatrième question, où on a demandé aux gens qu'on a croisés avec qui ils pensaient être le plus fraternel.
Avec qui estimez-vous vous montrer le plus fraternel?
Mon frère.
Avec tout un chacun. Dans la mesure du possible.
Avec mes frères et sœurs. Et comme je vous ai dit au départ, il faut définir la notion de fraternité, ce que c'est exactement. Donc voilà, moi je la vois plus dans le sens l'aide à une personne qui en a besoin. C'est un peu plus général, moi, ma notion de fraternité. C'est plus dans l'entraide, voilà. Donc du coup, ça peut être très bien envers une personne, envers vos amis qui ont un problème, envers quelqu'un qui vous avait donné une pièce qui est en galère dans la rue. Voilà. Ça peut être très, très large. Un chien blessé que vous recueillez, finalement on peut être frère avec un animal. Voilà, y a plein de choses. Ça dépend de la notion que vous définissez au départ.
Et avec qui tu estimes te montrer le plus fraternel?
Ma famille, ma fille, mes petites filles. Donc j'ai des amis.
Avec ma famille.
C'est limité, hein. Avec ma famille, peut-être. Ma famille proche. Et puis c'est tout.
Ou peut-être les gens du parc, là, les voilà, amis du parc.
Voilà, les amis.
De temps en temps.
Je sais pas, je fais pas de distinction. Personne en particulier, mais du coup tout le monde.
Est-ce que dans cette dernière partie de micro-trottoir, il y a quelque chose qui vous fait réagir en particulier? Est-ce que quelqu'un a dit un mot ou une phrase qui vous marque?
Ben, moi, j'ai entendu une dame dire je vais aider ma famille, c'est très limité, je vais aider ma famille et c'est tout. Non, enfin, je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut le voir. Tu aideras peut-être plus ta famille d'un côté, mais t'aideras pas que ta famille. Oui, ça dépend des gens, mais à ce moment-là, on peut le voir comme une certaine sorte d'égoïsme. C'est plus la fraternité, c'est juste le lien de famille.
Après, il y a le monsieur qui a dit qu'on peut aussi être amis avec les animaux. Par exemple, les chiens qu'on vient aider, par exemple une tortue, enfin voilà.
Ouais, c'est vrai, moi aussi c'est un truc qui m'a un petit peu surpris quand il a dit ça au micro. Vous pensez qu'on peut être fraternel avec des animaux?
Oui.
Oui.
Y en a, sur leur nom d'amis, c'est écrit le sang. Ça veut dire que c'est leur meilleur ami qui est considéré comme des frères.
Mm-hmm. Une fois, on a trouvé une tortue toute seule devant le collège. Et en fait, on l'a ramené chez nous, on l'a nourri avec des trucs de pastèque, venant de melon. Et c'est échappé, du coup, ça nous a fait triste, parce qu'on avait, tu sais, quand même lien.
C'est que vous l'avez bien aidé et elle a retrouvé tellement de force qu'elle a réussi à partir.
Non, c'est le chien qui a dégommé la barrière.
Ah, bon, d'accord.
Ouais, si on voit un chien, par exemple, qui a plus de pattes dans la rue, je sais pas, il s'est fait écraser par une voiture, tout ça. On a vraiment envie d'aller l'aider parce qu'il est tout mignon, voilà.
C'est un peu superficiel d'aider quelqu'un que parce qu'il est mignon. Parce que si, en gros, on trouve un chien, il est tout moche, il a de la boue partout. Je vais pas l'aider parce qu'il est pas beau. Il est pas beau, il a pas de la chance. C'est la vie, il l'a fait comme ça, donc il a le droit de mourir.
Aussi,
c'est super.
T'as quelque chose à répondre, Noé?
Mais les chiens, c'est mignon en général. Moi, j'aime bien tous les animaux, mais voilà.
Aussi, on peut pas aller l'aider si c'est un chien, s'il est agressif ou un autre animal.
C'est vrai.
Après, on dit le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais du coup, on les aide. Mais après, c'est pas que les chiens. Mais les animaux aussi ont une certaine conscience. Et les animaux aussi arrivent à avoir des personnes en difficulté et à vouloir les aider comme ils peuvent. La plupart du temps, les chiens, avec leur maître, si leur maître est triste ou quelque chose comme ça, les chiens le ressentent et essaient d'aller le voir et d'aller l'aider. Et si un chien voit son maître en difficulté, ce chien-là va aller aider son maître. Enfin, normalement, enfin, je pense. Mais après, c'est pas qu'avec les chiens, c'est avec plein d'autres animaux. Mais je pense que les animaux sont tout autant fraternels que les êtres humains. Sauf que après, on peut pas non plus le voir tout le temps. Mais je pense.
Je voulais aussi dire, c'est que par rapport à la... Les gens, ils aident aussi en mode par rapport comme la beauté aussi, c'est superficiel parce qu'une fois j'avais vu un micro-totoir justement sur YouTube et en gros c'était, il y avait une petite fille de 4 ans qui était toute seule au milieu de la rue et avait des petites couettes qui pleuraient. Au bout, et on chronométrait le temps que les gens venaient lui demander où était sa maman. Au bout de 50 secondes, il y avait des gens qui venaient. On mettait un petit garçon de 9 ans au milieu de la rue, et bien il y a 20 minutes avant que quelqu'un vienne l'aider. Juste parce que c'était un garçon ou qu'il était plus grand et qu'une petite fille c'est plus mignonne, c'est plus chou, alors qu'un petit garçon il peut se débrouiller tout seul un petit peu plus.
Il y a quelqu'un qui nous parlait dans les premiers extraits du micro-trottoir qui parlait beaucoup de jugement. Ça rejoint un petit peu ce que tu nous dis peut-être.
Oui, parce que je trouve que c'est un peu dommage que les gens réagissent comme ça.
Donc ils jugent avant de vraiment aller essayer d'aider ou de comprendre ce qui se passe.
Et ça revient à la peur de l'inconnu.
Et oui, je suis bien d'accord. Alors justement, par rapport à ça, alors j'ai fait quelques recherches avant de vous proposer ce débat, et je suis tombé sur un article qui me paraissait un petit peu intéressant. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. En août 2017, il y a un agriculteur qui s'appelait Cédric Héroux qui a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 4 mois de prison avec sursis pour avoir transporté environ 200 Érythréens et Soudanais, donc des migrants, de la frontière italienne à chez lui où il organisait un camp d'accueil. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Ça se fait pas trop vu qu'il aide des êtres humains et... Il les aide et on le remercie en le punissant de prison.
Parce qu'il n'avait pas le droit, peut-être, au final, de faire ce qu'il a fait.
Ouais.
Parce que, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la peur de l'inconnu. Les Français, dans la devise française, les Français sont fraternels entre Français. Et ils ne vont pas aller voir quelqu'un d'autre. Et là, tu me dis aider qui déjà ?
Des Érythréens et des Soudanais.
Oui, voilà. Eh bien, justement, comme ils ne sont pas français, ils font peur. On va dire ça comme ça. C'est comme, justement, c'est un peu une sorte de racisme. Mais après, on ne va pas aller jusque-là parce que c'est quand même un gros mot. Mais après, c'est la peur de l'inconnu, justement. Enfin... Les Français sont fraternels entre Français, puisque c'est dans la devise française. Enfin, je pense. Après,
est-ce que vous vous sentez tous plus proches des Français que de personnes d'autres nationalités ?
Non, mais
non.
C'est...
Non.
Pour moi, on est tous des êtres humains, on est égaux.
Que ce soit français ou n'importe quel origine d'un pays, c'est être humain, donc c'est pareil.
Personnellement, pour revenir à l'histoire des migrants et du camp d'accueil, juridiquement, t'as pas le droit de faire ça, mais humainement, c'est aider les gens, c'est comme un réflexe. Les gens, ils fuient la guerre et il y a des conditions invivables dans leur pays et t'as vraiment envie de les aider pour qu'ils aient une meilleure vie.
Moi, je trouve que ça se fait pas parce que de mettre 4 mois de prison juste pour avoir fait ça, il a voulu aider des gens et en fait, quand il se retrouve à 4 mois de prison,
Moi je suis d'accord, enfin, je pars du principe où un être humain c'est un être humain et qu'ils viennent de France, du Soudan, d'Éthiopie, de n'importe où, et ben il faut l'aider. Et que, enfin moi je me dis que si d'un coup là en France il y avait une guerre et qu'on devait tous partir parce que justement on pouvait plus vivre ici, et ben j'aimerais bien que dans un pays à la frontière, et ben j'aimerais bien que quelqu'un m'accueille. Donc je me dis, enfin si j'ai envie que les gens ils fassent ça pour moi, même si ils peuvent aller en prison ou être punis pour parce qu'ils ont fait ça, et ben j'aimerais bien qu'on me le fasse. Donc je vois pas pourquoi moi je le ferais pas.
Il y a malgré tout des choses qui sont interdites. Et par exemple, si on revient à notre exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui se fait frapper, battre dans la rue, qui peut se faire peut-être par exemple menacer de mort, est-ce que toi tu irais jusqu'à tuer la personne qui la menace?
Non.
Non. Non.
Alors on la fixe où la limite?
Ben
j'appellerai la police pour qu'il arrête.
On fait de mal à personne quand on accueille un migrant, alors que si on tue la personne qui insulte une autre personne, ça fait du mal.
Ben juridiquement, c'est il y a une personne qui se fait agresser dans la rue. Si tu l'aides, c'est bien. Mais la personne, normalement, t'as pas le droit de lui faire mal ou quelque chose, parce que c'est pas de la légitime défense. Là, c'est t'agresses la personne qui agresse quelqu'un d'autre. Mais si tu l'aides pas, c'est de la non-assistance en personne en danger. Du coup, il y a un fil un peu tendu entre les deux. Et après, la personne qui se fait agresser, elle doit répondre à des actes qui sont proportionnels à ce que l'autre elle fait. Parce que si l'autre elle l'attaque en lui mettant des coups de poing, l'autre personne elle a pas le droit de la tuer, par exemple. Parce que.
Je donne volontairement un exemple extrême, hein. J'espère bien que ça vous arrivera pas.
Hein. Mm. Quand t'as dit si quelqu'un se fait battre dans la rue et qu'on tue la personne qui l'a battu, ben en fait c'est plus de la justice, c'est de la vengeance. Puisque.
Bon, alors sans aller jusqu'à tuer des gens, hein. Un copain au collège qui se fait taper dessus, est-ce que tu vas aller taper sur la personne qui s'en prenait à lui?
Moi non, oui. Moi je trouve que c'est un mal pour un mal, on règle pas tout par la violence, ça sert à rien.
Personnellement, y a un pote qui se bat et contre un autre, moi je vais pas aider. Dans le sens, même si c'est mon pote, j'ai rien à faire dans l'histoire. À part si j'étais dans l'histoire, j'irais l'aider. Mais là, j'y suis pas. Du coup, j'ai rien et je vais pas l'aider.
Pour moi, s'il y a quelqu'un qui se fait frapper dans le collège, par exemple, ouais, je vais taper sur l'autre. Puisque, genre, si ça se trouve, l'autre, il va taper là où il faut pas et il va casser la jambe à ton collègue. Alors que si t'interviens, il y aura personne de blessé. Enfin, tu mets un petit coup et après, tu vas aller voir la CPE. Voilà quoi.
Mais au final, c'est peut-être toi qui vas faire le faux mouvement et vraiment blesser l'autre.
Ben non. Genre, tu viens et tu le pousses. Il va juste tomber par terre.
Mais tu risques pourtant d'avoir des ennuis après ça. Parce que t'auras frappé.
Oui, mais
frappé,
au moins t'auras fait une bonne action parce que t'as défendu quelqu'un.
Donc pour toi, ça vaut le coup de se faire punir si c'est pour une action comme ça?
Franchement, ouais, parce qu'il y aura rien de grave.
Bah, la dame.
Tu pousses juste une personne.
Vous êtes d'accord les autres?
Bah, oui. Ou sinon tu les sépares. Au moins, vu que comme ça, t'es pas une bonne action.
Je trouve que oui, parce que la dernière fois, en fait, il y avait deux personnes qui se sont disputées. Il y a quelqu'un qui a fait un croche-patte à une fille. Bah, maintenant, elle est paralysée.
C'est des choses qui arrivent, voilà.
Moi, quand il y a quelqu'un qui se fait taper, mais dans le sens où si c'est vraiment de. Une personne, la personne qui tape l'autre, c'est de façon, elle est plus petite, c'est parce qu'elle sait qu'elle va, entre guillemets, gagner contre l'adversaire qui est face à lui, la personne. Si, par exemple, il y a un troisième dans le collège qui tape un sixième, et le sixième, il a un gabarit tout fin, alors que le troisième, il fait du rugby et il est en train de le démonter, là, tu vas vouloir aller l'aider. Parce que tu sais que l'autre il va pas s'en sortir. Mais si c'est deux potes qui sont dans la même classe, qui se battent et qui ont le même gabarit, tu les laisses faire et t'appelles un surveillant ou la CPE ou un prof.
Et comme on dit, c'est plus facile de s'en prendre à des plus faibles, quel que soit.
Moi, je pars du principe où Je me dis que s'il y a deux personnes qui commencent à se battre ou à se taper dessus ou que quelqu'un se fait agresser, je vais d'abord appeler des gens pour essayer de les séparer. Et parce que ça sert à rien de, quand t'es tout seul, ça sert à rien d'y aller parce que tu vas te retrouver toi dans le problème en plus et ça va faire qu'empirer les choses. Alors que si tu vois qu'autour de toi il y a d'autres personnes, il faut prendre ces personnes avec toi pour essayer de séparer les gens et de régler la chose, parce que si tu vas toi tout seul, et ben tu te mets dans le même problème que l'autre et ça peut finir que mal.
Parmi les plus grands, les plus grandes du groupe, est-ce que vous avez commencé un petit peu à faire de la conduite, à passer le code, tout ça? Oui. Ouais, normalement, quand on nous parle d'un accident, quand on nous dit qu'on voit un accident sur la route, dans l'ordre, on nous dit qu'il faut protéger, alerter et ensuite secourir. Ça vous paraît être bien, être le bon ordre et les choses à faire?
Il faut d'abord se protéger soi-même, donc ça c'est le premier élément. Après, le deuxième, c'est d'abord secourir et après alerter. Pour moi, c'est...
Tu dirais secourir en premier?
Ouais. Tout à fait, ça dépend dans la circonstance de l'accident. Si le mec avec toi il y a un arrêt cardiaque, donc, là, tu vas le faire le massage de suite. Voilà.
Pour pencher sur le massage cardiaque, j'ai fait un stage sur ça, comment aider une personne en danger comme ça, qui est loin d'une mairie où il y a des défibrillateurs ou autre chose. D'abord, j'ai appris qu'il fallait pratiquer le massage. Et si on a un téléphone ou qu'il n'y a personne dans la rue, il fallait direct appeler, mais en pratiquant le massage, si possible. Parce que comme ça, on fait les deux en même temps et c'est beaucoup plus rapide que si on appelle. Non, il y a un truc qui s'appelle poser le téléphone par terre et mettre le haut-parleur. Non, parce qu'il y a Franck qui fait un téléphone, massage, et du coup, voilà, c'était pour dire
parce
ça.
Qu'au final, on a parlé de tout ça, on a parlé de protéger, on a parlé d'alerter en appelant la police ou d'autres personnes, on a parlé de secourir aussi. Vous pensez qu'on est bon, que c'est à peu près cet ordre-là, vraiment, ou pas?
L'ordre, c'est protéger, alerter, secourir?
Ouais.
Par protéger, ça veut dire quoi? C'est-à-dire parce que
alors,
moi
dans l'exemple des accidents de voiture, oui. C'est notamment d'aller placer ton petit triangle rouge, de mettre ton gilet de sécurité et de protéger la zone pour être sûr qu'il n'y ait pas un suraccident par-dessus.
Non. Moi mon premier réflexe si je vois un accident de ce style-là, c'est si la personne est, c'est d'abord d'appeler. Parce que c'est dangereux de toucher une personne si elle est en difficulté.
C'est le secourir. Donc la dernière étape, si on suit cet ordre-là, qui risque de t'amener à aller toucher la personne.
Oui, donc au lieu genre d'aller, le premier réflexe d'aller voir la personne et de vouloir justement la secourir, j'appellerai. Et après, je protégerai les environs. Et après, j'irai voir la personne et j'essaierai justement de la secourir, de lui dire, d'essayer de la tenir réveillée. Mais après, j'essaierai de faire ça le plus rapidement possible.
D'accord.
Mais après, ça dépend aussi de la difficulté de la chose. Si la personne est vraiment en une difficulté forte, la première chose que je fais, ce serait de la mettre en PLS. Ça dépend en fait par du exemple. Degré de gravité.
Position latérale de sécurité, PLS.
J'ai une question.
Vas-y.
Si quelqu'un fait un arrêt cardiaque et qu'il n'y a pas de réseau, comment on fait?
Est-ce que le docteur Carrère est encore avec nous? On en discutera peut-être tout à l'heure si tu veux. Si quelqu'un fait un arrêt cardiaque et qu'il n'y a pas de réseau,
il me semble en France qu'avec votre téléphone via les satellites, en faisant le 112, on a toujours du réseau pour les appels d'urgence.
Oui, il y a les appels d'urgence.
Pas de téléphone.
On fait du bout à bout.
Je suis d'accord.
Ben, t'appelles quelqu'un dans la rue qui a un téléphone.
Oui, mais si on est paumé dans la campagne.
Si on est paumé, il y a très peu de chances que tu sois paumé dans la campagne et qu'il y ait une personne qui fasse un arrêt cardiaque. Il y a peu de chances.
Oh là là.
Bon, bref, je pense qu'on arrive à peu près à la fin de ce débat. Moi, j'aimerais bien finir en vous demandant si vous percevez la fraternité comme quelque chose d'indispensable. Est-ce qu'il faut que ça soit toujours là, constamment, ou est-ce que parfois... on peut essayer de s'en passer, de passer à côté.
Bah, faut la garder.
Ouais, ben la fraternité, c'est quelque chose d'important. Que ça, toujours qu'elle soit là.
Ouais, c'est important, c'est quelque chose qui est ancré dans la société et qu'il faut garder. Qu'il faut déployer le plus pour aider les autres.
Moi, justement, oui, il faut la garder juste parce que justement, elle est déjà pas assez ancrée, comme il l'a dit Noé, et il faudrait plus, comme j'ai dit avant, de l'ancrer et tout le temps y penser parce que justement, avant ce débat, même moi, j'y pensais pas aussi souvent que je savais même pas vraiment la vraie définition en soi.
Je reprends la parole pour peut-être clore le débat. Moi, j'ai envie de dire. Vous vous souvenez, Alex, de quoi il vous a parlé au début ? Il vous a parlé des attentats. Et si on est dans ces débats à la Fédération départementale des foyers ruraux 66 par rapport à la République, par rapport à ces valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est un peu par rapport aux attentats pour que le pays réagisse, pour que les jeunes réagissent. Et finalement, la fraternité, si ce n'était pas quelque chose de tout simple, et si ce n'était pas un terme qu'on entend beaucoup depuis 3 ans, depuis ces attentats, si ce n'était pas tout simplement accepter l'autre, accepter les différences, aimer son prochain, et finalement, vivre ensemble. Ce terme qu'on entend beaucoup, alors qu'il peut paraître un slogan politique, qu'il peut paraître beaucoup de choses, mais finalement, je pense que la fraternité, c'est ça, c'est vivre ensemble. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner l'inverse de la fraternité ? Et je pense que ça résumera tout. Et je pense que vous aurez compris ce qu'est la fraternité.
Les ennemis. L'égoïsme.
Un autre mot.
On pense qu'à soi.
Donc égoïsme, on pense qu'à soi. Et si finalement, ce n'était pas tout juste l'individualisme.
Bah oui.
Faire les choses tout seul et ne pas regarder l'autre. Et finalement, si on oublie ça, on est toujours dans la fraternité.
Le solitaire.
L'égoïste, l'individualiste. Et finalement... Si on oublie, on est en plein dans la fraternité, on est dans le vivre ensemble, et c'est ce que vous faites aujourd'hui pendant ce week-end. Je pense que personne n'a regardé qui était blond, qui était brun, qui était maigre, qui était gros, qui était de Lédignan, qui était de Ponteilla, et on est là tous ensemble, et c'est ce qu'il faut faire au quotidien. Voilà, bravo en tout cas pour votre participation, les jeunes, merci pour votre implication.
Merci.
Bravo. Au revoir et bonne soirée.
Merci à tous d'avoir participé. J'en profite aussi pour finir en disant un grand merci à Océane qui a jonglé avec le micro, à Valentine et Noé qui m'ont aidé à préparer tout ça et Esteban qui vous a fait la technique pendant ce débat. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu ouvert l'esprit à de nouvelles questions. N'hésitez pas à venir en parler, c'est avec
merci
plaisir.
Merci à Magali et aux Gardois d'être venus d'aussi loin.
Et merci aux Gardois d'avoir fait toute cette route. Ce débat citoyen touche à sa fin. Merci à la Fédération départementale des foyers ruraux du Gard de s'être déplacée pour rendre possible ce week-end fort en échange. Les deux parties de cette émission sont bien évidemment à retrouver en podcast sur notre site internet. Alors à bientôt sur Take It. We are...